Bon, donc nous avons un grand plaisir d'accueillir Vincent Borély ce soir pour une conférence sur trois défis à l'impossible. Donc une petite présentation rapide. Vincent est mathématicien à l'université de Lyon 1, géomètre plus précisément, mais c'est aussi une personne qui est très intéressée dans la diffusion des mathématiques auprès du grand public, avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour, mais en fait auprès de tous, on va dire, plus précisément. Donc il a agi dans cette direction-là en publiant un livre remarquable. Si, si. C'est vrai. En cheminant avec Kakeya, donc sur un problème, tout ce que peut apporter une question mathématique simple comme développement dans des mathématiques compliquées mais toujours accessibles, avec une présentation. Bon, c'est un plaisir de le lire, je vous le conseille vraiment. Et aussi en étant fondateur et directeur de la Maison des maths et de l'informatique à Lyon, une structure dont la vocation est de présenter des expositions, des conférences, des lieux de rencontres et d'échanges mathématiques, et tout plein de bonnes choses. Et donc ce soir, il va nous présenter cette conférence sur des travaux de Smale, Boyd et, j'ai oublié le troisième, Nash. Voilà. Merci beaucoup.
Merci Julien pour cette présentation élogieuse. Merci aux organisateurs pour leur invitation, pour le repas qu'on vient de faire, qui risque d'avoir quelques petites conséquences sur l'exposé qui va suivre, mais bon. Merci d'être présent ce soir, d'avoir décidé de consacrer une belle soirée aux mathématiques. Ce soir, donc, nous allons nous intéresser à trois défis à l'impossible, trois défis qui mettent en jeu donc les mathématiciens Werner Boyd, Stephen Smale et John Nash, et qui concernent tous les trois les surfaces mathématiques. Donc le premier de ces défis, celui que va relever Werner Boyd, s'intéresse au ruban de Möbius. Alors, je vous rappelle ce que c'est que cet objet. Vous prenez une bande de papier et puis vous la raccordez avec une demi-torsion. Et ce faisant, vous échangez une face et l'autre, comme on le voit bien ici, avec d'un côté le jaune et de l'autre côté le rouge. Et vous savez que cet objet, qui a l'air complètement anodin, en fait, il apparaît en mathématiques relativement tard. Il est découvert en 1858 et indépendamment par deux mathématiciens, Listing et Möbius. C'est assez incroyable, deux mathématiciens qui trouvent en même temps un objet aussi singulier que le ruban de Möbius. Mais en fait, il y a une explication. L'explication, c'est que ce sont tous les deux des élèves de Gauss et que c'est en fait Gauss qui a découvert cet objet et qui a transmis sa découverte à ses deux étudiants. Alors, une des propriétés du ruban de Möbius, c'est que c'est un objet qui a un seul côté, unilatère. Ça veut dire que même si, quand je le regarde localement au niveau de la petite fourmi, là, j'ai l'impression que j'ai un dessus et un dessous. En fait, ma petite fourmi, quand elle se balade, enfin, si elle veut bien se balader, quand elle se balade, eh bien, elle va visiter les deux côtés, en quelque sorte, du ruban de Möbius, dans un même mouvement, dans une même continuité. Bah, ça, c'est en train de me dire que je crois qu'il y a deux côtés, mais il n'y en a qu'un seul. Mon objet, vous voyez là, la petite fourmi, elle est arrivée de l'autre côté et elle continue son trajet. J'ai toujours l'impression que j'ai une ou deux fourmis qui me montent dans le dos quand je regarde ce film. Donc, bref, on a qu'un seul côté dans cet objet et c'est pas le tout. Le bord de cet objet, alors imaginez-vous maintenant encore une fourmi encore plus petite qui se balade sur cette toute petite épaisseur du bord là. Donc, vous vous baladez. Et vous allez vous rendre compte que en un seul trajet, vous parcourez l'ensemble du bord de l'objet. D'accord? Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet de détecter les faux rubans de Möbius. Là, on a un ruban de Möbius qui a illustré l'article Wikipédia sur les rubans de Möbius. Fut un temps, puis ça a été corrigé. Parce qu'on se rend compte que le bord, je vois une courbe fermée verte, une courbe fermée rouge, j'en ai deux, ça peut pas être un ruban de Möbius. Ça peut pas. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette fois, au lieu d'avoir raccordé votre ruban avec une demi-torsion, vous l'avez raccordé avec deux demi-torsions. Donc ce que vous avez fait, c'est ça. Donc si d'un côté votre papier était en vert, de l'autre côté en jaune, eh bien en faisant deux demi-torsions, vous ne créez pas une surface unilatère. Elle continue à avoir deux côtés. Si je veux créer une surface unilatère, ce qu'il me faut, c'est un nombre impair de demi-torsions. Donc ici j'en ai mis une, ici j'en ai mis trois, on peut en mettre cinq, etc. Et là vous avez toujours ce qu'on appelle des rubans de Möbius, on ne fait aucun distinguo. Tout ça c'est des rubans de Möbius, et ça, ça n'en est pas. Le ruban de Möbius à trois demi-torsions, ben, on le rencontre assez fréquemment puisque c'est le symbole du recyclage, tout simplement. Et puis voilà, un exemple pour tester nos connaissances fraîchement acquises. Est-ce qu'on a sous les yeux un ruban de Möbius ? On a bien envie de dire oui, j'ai les trois demi-torsions, mais regardez le bord. Le bord, il est d'un seul tenant. Ok, ça m'a tout l'air d'être un ruban de Möbius, cette affaire. Bon, ben, des rubans de Möbius, il y en a un peu partout, en mathématiques, en physique, mais aussi dans la nature. Regardez si vous avez l'occasion d'aller en Californie, d'aller dans les Alabama Hills, vous allez découvrir ceci. C'est vraiment une attraction touristique majeure. Hein. C'est un ruban de Möbius naturel réalisé par la roche. Donc, si on va de plus près, on voit ici la demi-torsion. Hein. En tout cas, si vous ne la voyez pas, faites semblant. Vous avez payé le billet pour en Californie pour ça, donc maintenant, vous vous extasiez. Bon, quand on parle de ruban de Möbius, en général, peu de temps après, il vient la bouteille de Klein. La bouteille de Klein, c'est une drôle de bouteille. Vous voyez que le goulot, eh bien, il s'est rengorgé en quelque sorte pour aller ressortir au niveau du nombril. Hein ? Comment est-ce que c'est fabriqué, cette bouteille ? Eh bien, vous prenez un tube, vous faites un évasement d'un côté, et puis de l'autre côté, vous faites une boucle. Et maintenant, vous avez envie de rejoindre le bord de l'évasement avec le bord de ce tube ici. Mais pour ce faire, il va falloir traverser le tube qui est ici. Et là, c'est là qu'on sort de la vraie vie, et on imagine que nos matériaux se traversent comme ça, sans souffrir. Donc on a maintenant une vision mathématique, le matériau se traverse sans souffrir, et le voilà qui se traverse. Et ce faisant, je crée une intersection de la bouteille avec elle-même, une auto-intersection, le long d'une courbe ici. D'accord ? On la comprend un peu mieux, cette bouteille. Ici, vous avez un petit film qui a réalisé la bouteille de Klein. Est-ce qu'on la voit, cette auto-intersection ? Oui, on la voit vaguement ici. Donc, il faut bien se rendre compte qu'à l'intérieur, il n'y a pas un trou. Hein, la surface, elle continue. Bon, pourquoi est-ce que... Ah oui, j'allais oublier ça. Je vous disais, ça, c'est pas la vraie vie. Mais en fait, dans la vraie vie, vous en avez des bouteilles de Klein, ou des approximations, en tout cas, de bouteilles de Klein. C'est quelque chose, je ne dirais pas que c'est commun, mais ça se fait en verrerie, de réaliser une bouteille de Klein. Vous voyez ici le coude de tout à l'heure avec le tube, ben voilà, il est fait en vrai, en verre. Vous voyez ici l'auto-intersection, elle est traitée. Et là, la fierté du verrier qui a réalisé une magnifique bouteille de Klein de la moitié de sa taille, les deux tiers, et probablement la totalité de ma taille à moi. On pourrait se dire, ça c'est le maximum pour les verriers. Non, vous n'y êtes pas. Le maximum pour les verriers, c'est bien, bien, bien plus loin. Oui. Je suis allé visiter un verrier dans les environs de Lyon il y a quelques années. Ils font vraiment des choses absolument incroyables. Bien, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Je vous parle de la bouteille de Klein parce que dans la bouteille de Klein, vous avez un ruban de Möbius. Ben oui, vous le voyez représenté, c'est comme si j'avais mis du ruban adhésif. Je suis le mouvement naturel de cette bouteille. Je passe ma boucle, ici je passe le nombril, je rentre à l'intérieur de ma bouteille et je ressors comme ceci. Ben, si vous vous mettez en petite fourmi, vous allez vous rendre compte que vous vous retrouvez de l'autre côté, au bout d'un tour, entre guillemets. Donc on a là un ruban de Möbius. Bon, c'est rigolo, ok, j'ai un ruban de Möbius dans la bouteille de Klein. Mais ce qui est encore plus rigolo, c'est qu'en fait, dans la bouteille de Klein, c'est pas que vous avez un ruban de Möbius, vous en avez deux, et seulement deux. Et en fait, une bouteille de Klein, c'est rien d'autre que deux rubans de Möbius. Ah, comment est-ce qu'on voit ça ? vous prenez votre bouteille de Klein et vous prenez une scie et vous allez la scier. Zizi, 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 voilà, je les scie. J'ai la partie haute, la partie basse qui sont miroirs l'une de l'autre. Je vais m'intéresser à la partie basse, sachant que, évidemment, ça serait la même chose sur la partie haute, à un miroir près. Et ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer, ok, c'est peut-être un matériau fictif, mais je vais imaginer qu'il réagit un peu comme tous les matériaux physiques. C'est-à-dire que si je le mets dans le froid, il se contracte. Alors là, ce n'est pas dans le froid que je vais le mettre, c'est dans le très froid, je vais balancer de l'azote liquide. Boum. Vous balancez de l'azote liquide là-dessus, votre matériau se contracte, en particulier, vous voyez ici la rigole, elle va devenir plus plate. Le mur qui traverse la rigole, eh bien, il va se rétracter lui aussi, et du coup, je vais voir disparaître mon auto-intersection. On y croit ? Bon, vous avez une tête à y croire. Hein ? Ok. Je continue à mettre du froid dessus, tout le mur qui était à l'arrière, et il va continuer à se contracter, mon matériau va faire à peu près ceci, ah ben là, on reconnaît, hein. C'est un ruban de Möbius. Donc, la moitié de ma bouteille de Klein à un jet d'azote liquide près, c'est un ruban de Möbius. Alors, ça veut dire, évidemment, j'ai fait ça pour la partie basse, mais c'est la même chose pour la partie haute. Autrement dit, ma bouteille de Klein, je peux la voir comme deux rubans de Möbius, l'un collé à l'autre. C'est un peu comme une décomposition d'une molécule. Vous voyez, c'est comme si j'avais du dihydrogène, et puis j'ai deux atomes d'hydrogène qui vont former ma molécule. Donc on voit tout d'un coup un objet compliqué, une surface, comme une somme d'objets plus simples, genre d'atomes de surface. Donc mon ruban de Möbius, c'est un atome de surface. Et comment est-ce qu'il se lie à un autre atome ? Eh bien, vous voyez, il se lie parce que, on l'a vu tout à l'heure, le bord, il est d'un seul tenant. Donc c'est comme si j'avais un lacet de chaussure dont j'ai attaché les extrémités, dont j'ai attacher les extrémités avec du ruban adhésif, disons. Et là, c'est la même chose. Et ce qu'on va faire, c'est en quelque sorte, on imagine abstraitement dans sa tête qu'on va coudre ce bord à l'autre bord. Évidemment, pour faire cette couture, c'est mieux d'avoir un peu de mou. Je vais prendre mon bec benzène et je vais dilater un peu mon matériau. Et ce faisant, je vais retrouver ma bouteille de Klein. On y croit ? Bon, on fait semblant en tout cas. On va regarder ça sur ce petit film. Donc ce petit film, vous allez voir, on va construire la bouteille de Klein et puis on va la, non pas la couper en deux, mais on va faire une incise et on va la rétracter par rapport à cette incise, ce qui va revenir un peu à la couper en deux. Donc là, on voit le tube qui traverse la bouteille au nombril, l'évasement. Et j'ai déjà trop chaud. Voilà, donc là, on a à peu près notre moitié de bouteille. Et puis, on va lui faire subir des trucs inavouables pour qu'elle finisse par ressembler à un ruban de Möbius. Voilà. Tout va bien. Bon. Ok, donc je fais un petit peu de la chimie avec mes surfaces. J'ai ma bouteille de Klein. En fait, je sais que je peux la casser en surface plus élémentaire. C'est deux rubans de Möbius. Alors maintenant, je vais jouer. Je vais prendre un ruban de Möbius, puis je vais prendre un autre type d'atome, en quelque sorte. Mon autre type d'atome, c'est un disque. Eh bien, oui, ici, j'ai un bord qui est d'un seul tenant, qui est une courbe fermée. Ici, j'ai un bord qui est d'un seul tenant, qui est une courbe fermée. A priori, je pourrais coudre un bord à côté de l'autre et fabriquer une molécule de surface, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça va être, cette surface ? Ah. Ben, en fait, on savait la réponse bien avant d'inventer les rubans de Möbius. On appelle ça la surface romaine. Elle a été inventée par Jacob Steiner. Et romaine parce qu'il l'a trouvée quand il était en voyage à Rome. Voilà. Et ça ressemble à ça. Ouais, d'où ça vient ça ? Alors attention, on s'accroche. Ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est un quart de ruban de Möbius. Vous voyez des petits traits comme ceci. Vous imaginez que c'est comme si j'ai une baguette, une petite baguette, et je la fais monter comme ça en tournant, légèrement. Et puis arrivé à une certaine altitude, je continue de tourner, mais je redescends. Alors vous voyez, hein, j'ai continué de tourner, mais j'ai redescendu. Donc je fais se traverser le matériau, mais ça, on n'en est plus à ça près, hein, depuis 10 minutes. Je continue, et puis je fais la même chose symétriquement en bas. Et ce que j'obtiens, c'est une sorte de ruban de Möbius qui s'auto-intersecte lui-même. Ouïouïouï, pourquoi pas. Je vais le réchauffer au bec benzène, donc je vais l'étirer encore et encore. Et puis, qu'est-ce qui me manque? Ça, c'est mon ruban de Möbius. Il me manque mon disque. Ah ben, le disque, le voilà. Et je vais l'attacher à ça pour obtenir ma surface romaine. Je ne vous demande pas de comprendre cet objet dans le détail. Hein, on est bien d'accord. C'est juste avoir la vague idée que je ne suis pas en train de totalement vous arnaquer en vous disant qu'il y a un ruban de Möbius et un disque dans cette affaire. Alors, on pourrait être très content avec ça, mais en fait, on n'est pas content du tout. On n'est pas content du tout. Pourquoi ? Pas parce que la surface s'auto-intersecte elle-même. Ça, vous savez, ça ne nous fait pas peur. Mais ce qui embête beaucoup le mathématicien, c'est ces petits points que vous voyez là, qu'on appelle des points de pincement. Si je réalisais la surface avec du métal et que je m'amuse, je laisse un enfant jouer avec la paume de sa main sur la surface. Eh bien, si toute la surface elle était comme ça, vous laisseriez votre enfant sans problème. Hein. À 3 ans, 4 ans, il touche. Mais là, vous n'auriez pas envie, hein, parce que vous êtes sûr qu'il va se découper la paume de la main. Donc les points de pincement, c'est des endroits où apparaît des phénomènes de non-licité. Ma paume de ma main, ça ne se passe pas bien, je risque de la découper. Ça, c'est embêtant pour les petits-enfants, mais c'est aussi embêtant pour les grands-enfants que sont les mathématiciens, parce qu'à ces points-là, ben, le fait que vous vous coupez la main, ça a une traduction mathématique qui vous dit que vous allez avoir du mal à faire du calcul sur ces points-là. Bon. Alors on n'est pas content, on met le modèle à la poubelle, on dit c'est pas ça la bonne solution. Moi ce que je veux c'est une bonne solution dans laquelle j'ai pas de point de pincement, dans laquelle un enfant peut passer la main sans se découper. Alors on fait d'autres essais. En voilà un autre, le bonnet croisé. Il y a une auto-intersection. Ah mais mince, il y a encore deux points de pincement. On met à la poubelle. Encore un autre essai. Ah, deux points de pincement. On met à la poubelle. Ainsi de suite. Donc chaque fois qu'on essaye, on ne l'a pas fait ensemble, mais chaque fois qu'on essaye, on n'y arrive pas. On essaye d'accoler nos deux atomes et ça nous fait une molécule qui va pas, qui tient pas la route. D'où l'idée que c'est probablement impossible. Ce n'est pas possible de mettre un ruban de Möbius et un disque et de faire quelque chose qui soit bien lisse, bien doux. Et c'est ce que va proposer comme sujet de thèse David Hilbert à un de ses étudiants, à Werner Boyle. Démontrer qu'il n'existe pas de surface qui corresponde à l'addition d'un ruban de Möbius et d'un disque. Surface au sens qu'on a dit tout à l'heure, je peux passer la main sans me découper. Alors qu'est-ce que va faire Werner Boyle ? Ben, en bon étudiant de thèse, il va faire le contraire de ce que lui dit son directeur. Il va démontrer qu'il existe une surface qui correspond à l'addition d'un ruban de Möbius et d'un disque, et ça s'appelle la surface de Boyle, et on va la découvrir ensemble. Donc quelque chose qu'on pensait absolument impossible, Werner Boyle va montrer qu'elle est possible. Vous voyez, dans ce transparent, on a ici Hilbert, et puis ici, on s'attend à voir Werner Boyle et rien. Alors, si vous avez une photo de Werner Boyle, je vous l'achète. Vous imaginez, je vous l'achète. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel prix je serais capable de mettre, mais je vous l'achète. On n'a pas de photo de Werner Boyle. En fait, sa vie est un grand mystère. Donc, il naît à Wuppertal, c'est une ville industrielle en Allemagne. Visiblement, il est fort en maths, il va à Göttingen et il va fréquenter les grands mathématiciens de son époque. Il est brillant, il est pris en thèse par David Hilbert. Il passe sa thèse et comment ? Il publie un article avec cette surface incroyable en 1901 et puis il disparaît. Quand je dis il disparaît, corps et âme, on ne le voit plus. Il paraîtrait même que David Hilbert aurait lui-même diligenté une petite enquête pour savoir où Werner Boyle avait pu disparaître. En particulier, il serait allé interroger sa logeuse Il a payé son loyer, puis il est parti. Et en fait, David Hilbert ne reverra jamais Werner Boyle. Werner Boyle a disparu dans la nature. Alors, on en est resté avec un immense point d'interrogation jusqu'à il y a une petite dizaine d'années où il y a un groupe de physiciens qui a mené une enquête poussée sur Werner Boyle. Et voilà, ce qu'il en est ressorti, c'est que Werner Boyle serait retourné à Wuppertal, il aurait enseigné dans un gymnasium, puis la guerre éclate, il aurait été enrôlé dans l'armée allemande où il se serait engagé, c'est pas super clair, et en tout cas il meurt dans les premières semaines du conflit. Youpi. Revenons maintenant à la surface de Boyle. Je vous propose un petit film de l'Académie des sciences de Serbie qui montre comment est-ce que la surface de Boyle est réalisée. Alors vous voyez, c'est un peu à l'américaine, hein. C'est pas encore un blockbuster, mais c'est pas loin. Donc, il y a un petit avion qui va tracer la surface. Alors, elle consiste déjà en trois boucles dans les trois directions de l'espace. Et ces trois boucles sont parcourues deux fois. Vous voyez apparaître une courbe d'auto-intersection qui fait une sorte de trèfle avec un point triple là où les pétales du trèfle se rejoignent. Et puis vous voyez des tympans qui vont se refermer. On les voit ici. Voilà. Et en quelque sorte, les extrémités libres de ma surface vont glisser les unes sur les autres. On va avoir des tentacules qui se lovent l'une sur l'autre pour réaliser une surface, la surface de Boyle. Waouh! Waouh! On se le repasse? Hein? Vous êtes vraiment des élèves pas attentifs, hein, vous êtes obligés de repasser le. Moi, je l'avais compris tout de suite. J'aime bien le début, ça fait un peu alien. Et voilà. On va essayer de mieux comprendre cette surface. Je vais vous proposer la chose suivante. Là, vous voyez, je l'ai représentée à la main. Et j'ai fait un trou. Vous imaginez, vous êtes en haut de votre poulpe à trois tentacules, et vous faites un trou, crac, pour voir à l'intérieur. Et alors, qu'est-ce que je vois? Je vois mon point triple, et je devine mes courbes d'auto-intersection de mon trèfle. OK? Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir ce trou pour en voir de plus en plus. Donc ben voilà, je dégage mes courbes d'auto-intersection, je les dégage encore. Et ici, là, il apparaît quelque chose, c'est que, vous voyez, ce mur-là, il continue avec le tympan qui est ici. Et ce mur-là le coupe, disons, perpendiculairement. Je vais en avoir la confirmation, je vais continuer de raboter ben, le bord de ma surface. Et vous voyez, quand je rabote ce mur-là, hop, je vois que mon tympan il commence à disparaître. Et si je fais disparaître mon tympan, je fais disparaître ma courbe d'auto-intersection. Alors je continue comme un fou, je rabote, je suis tellement fier de pouvoir faire disparaître ma courbe d'auto-intersection que je ne m'arrête que quand elle a disparu. Et là, je m'aperçois que j'ai un ruban de Möbius à trois demi-torsions. Bon, c'était peut-être un peu rude. Je vous propose le chemin retour. Le chemin retour, je pars de mon ruban de Möbius à trois demi-torsions et puis je l'épaissis où? Hop, là, je crée mon point trip. Je vois déjà mes courbes d'auto-intersection telles qu'elles vont se dessiner. Elles n'y sont pas encore. Je continue à faire grandir ma surface. Mes courbes d'auto-intersection, là, se forment pour de vrai. Non, c'est pas ça. Voilà. Ici, elles sont formées. On les voit. Alors, attendez. Par exemple, ici, on la voit. Clac, comme ceci. Et puis, je referme. Je vous la fais en film parce que... OK. Je ne vous demande pas de tout comprendre. En fait, s'il y a une personne parmi vous qui comprend tout, en 10 minutes, là, tel que je viens de le faire, vous me rendriez atrocement jaloux. Parce que moi, je n'ai pas mis 10 minutes, hein. Je le dis tout de suite. J'ai mis un tout petit peu plus de temps. Alors, est-ce qu'on peut croire que le ruban de Möbius et le disque, ça forme bien cette espèce de poulpe à trois tentacules? Est-ce qu'on peut le croire? Eh bien oui, on peut le croire, on peut même que le croire, parce qu'on l'a déjà vu que c'est ça. Regardez, quand je vous ai dit « je creuse un trou », qu'est-ce que ça veut dire « je creuse un trou » ? Ça veut dire « j'enlève une petite pastille », « j'enlève un disque ». Tout le reste, qu'est-ce que ça veut dire que je rabote ? Ça veut dire « j'envoie mon azote liquide pour rétracter mon matériau ». Eh bien voilà, mon matériau il se rétracte jusqu'à un ruban de Möbius à trois demi-torsions. Voilà. Bravo, monsieur Werner Boy. Bravo. Imaginez un peu l'imagination dont il faut faire preuve pour concevoir cet objet. On va maintenant faire un bond dans le temps et dans l'espace. On est dans la fin des années 50. On est aux États-Unis. On découvre Stephen Smale. Et Stephen Smale, en quelque sorte, il va reprendre le flambeau de Werner Boy. Il va s'intéresser aux surfaces un peu de la même façon, en ne les voyant pas comme des objets absolument rigides, mais des objets qu'on peut déformer, sur lesquels je peux mettre de l'azote liquide, un bec benzène, des choses comme ça. Et il va se rendre compte d'un résultat absolument fracassant, qui s'appelle le retournement de la sphère. Théorème de Smale, on peut déformer une sphère jusqu'à la retourner entièrement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une sphère, c'est vraiment le ballon d'anniversaire que vous avez gonflé. Imaginez un ballon d'anniversaire. L'extérieur, vous l'avez peint en vert clair, et puis l'intérieur, vous l'avez peint en vert foncé. Et imaginez que vous arriviez à déformer le ballon pour que le vert clair passe à l'intérieur et le vert foncé passe à l'extérieur. Waouh ! Bon, c'est pas possible dans la vraie vie, on est tous d'accord. Alors, dans la vie de Smale, comment est-ce que ça peut être possible ? Alors, voilà ce qu'il nous dit. Vous avez le droit de jouer, mais attention. Au cours du mouvement, la surface reste lisse. À tout moment... Vous pouvez lâcher un gamin de 3 ans sur votre surface faite en acier, il ne se coupera pas la main. Deuxièmement, la surface ne doit pas être déchirée ou découpée. Ah bah oui, parce que si vous prenez la paire de ciseaux et que vous la découpez au milieu, que vous retournez, vous scotchez, vous avez triché et vous y êtes arrivé. On est tous d'accord. Deux interdictions, on a le droit à une petite autorisation. Et l'autorisation, c'est que les auto-intersections sont permises. Ben ça ne nous gêne pas, les auto-intersections. Ok, alors vous allez dire... Ouais, mais alors avec les auto-intersections, trop facile, regardez, moi je vous le fais en deux secondes. Prenez votre sphère là et appuyez un bon coup sur les calottes polaires. Vous voyez, donc elle rentre à l'intérieur de la sphère, mes calottes polaires, et puis je continue d'appuyer. Puis comme j'ai le droit aux auto-intersections, ben elles s'auto-intersectionnent, ces deux calottes polaires. Et puis hop, je les sors. Évidemment, la calotte polaire sud, son intérieur était vert foncé, donc quand elle sort par le nord, ben je vois du vert foncé. Et puis de même, de l'autre côté, il me reste quoi ? Il me reste une bouée équatoriale qui est en vert clair. Alors la bouée équatoriale, elle ne va pas faire long feu, parce que je vais continuer le mouvement. Je vais tirer à mort sur mes pôles nord et sud, jusqu'à avoir à faire disparaître ma bouée équatoriale. Et puis après, je souffle un bon coup à l'intérieur pour bien tout lisser. Alors vous avez tout de suite vu que là, ça ne va pas. Hein, parce que si vous lâchez un enfant là-dessus... Ce n'est pas un misérable point de pincement que vous avez, c'est un rasoir équatorial. Vous le découpez en deux, vous passez la soirée au poste de police. Okay ? Donc ça, ce n'est pas licite. La déformation n'est pas licite car la surface représentée dans le dernier dessin n'est pas lisse le long de l'arête équatoriale. Alors si vous ne connaissez pas la solution, et que je vous dis « Ok, essayez de me faire un retournement de la sphère », vous n'y arriverez pas. Ou alors vous êtes vraiment très impressionnant. En tout cas, du temps de ce mail, personne ne savait comment faire. Vous avez dit, oh, mais comment ça, personne ne savait comment faire. Ce mail nous fait un théorème, il nous dit que c'est possible. Alors c'est un résultat étonnant, mais il nous dit que c'est possible. Il suffit de regarder la démonstration de ce mail. Ben non, sa démonstration, elle est constructive. Ça, c'est un fait. Mais la façon dont cette démonstration est constructive ne vous aide en aucun cas à visualiser ce qui se passe. Tant et si bien que on sait en 1957 que c'est possible, mais personne ne sait comment c'est possible. D'où le défi, est-ce qu'on va réussir à voir ce qui se passe? Alors, très vite, Arnold Shapiro, qui est un ami de Raoul Bott, le voilà, et c'est le directeur de thèse de Stephen Smale, très bien, il va proposer une première version explicite du retournement en 61. Alors là, on se dit, quatre ans plus tard, non, c'est explicite dans sa tête. Le problème, c'est qu'il va falloir sortir ce qu'il y a dans la tête de Arnold Shapiro, et vous allez voir, c'est très rigolo. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Arnold Shapiro? Il va expliquer sa solution à Bernard Morin, qui est le mathématicien qu'on voit ici, qui est aveugle. Et Bernard Morin pense comprendre la solution d'Arnold Shapiro, et puis il va lui-même transmettre sa vision du retournement à René Thom, à Georges Francis, à Jean-Pierre Petit. Alors maintenant, a posteriori, on sait ce qui s'est passé. Donc, il avait en tête, Bernard Morin, un retournement dit à modèle central. Ça veut dire que vous partez de la sphère, vous lui faites subir des malheurs, vous arrivez à une surface médiane, qui est celle-ci, qu'on appelle maintenant la surface de Morin, et puis vous refaites toutes les déformations que vous avez faites de ce côté-là, de l'autre côté en miroir. Et ça vous retourne la sphère. Sauf qu'au moment où Bernard Morin imagine ceci, on ne l'a pas encore dessiné, cette surface de Morin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Bernard Morin? Il va essayer d'expliquer sa solution à René Thom, et René Thom lui-même va expliquer sa solution à qui veut bien l'entendre, par exemple Anthony Phillips. Donc il croit expliquer la version qu'il a entendue par Morin, mais en fait il a compris une autre chose et il invente une nouvelle version du retournement avec comme modèle central cette fois la surface de Boyle. Alors exactement c'est pas la surface de Boyle, c'est techniquement on dit un revêtement à deux feuillets de la surface de Boyle, mais peu importe. On est en 1966 et vous voyez qu'il n'y a toujours pas la moindre image qui est sortie. Bon, là, Phillips, il prend son courage de main et il va dessiner les premières images au Scientific American. Vous voyez ici, ça ressemble à un chromosome. Ce n'est pas vraiment ce qu'on avait envie de voir. En fait, on ne voit pas un retournement de la sphère. On voit des idées d'un retournement de la sphère, peut-être, mais on ne voit pas un retournement de la sphère. Donc, ça ne va pas. OK. On continue. Le premier modèle de retournement, vraiment palpable, il est dû à Charles Pugh. Il va prendre du grillage à poule et il va réaliser le retournement de la sphère imaginé par Morin. Il va le faire en grillage à poule, ça va être exposé, je crois que c'était au MSRI, et puis ça a été volé. Donc on est en 73, depuis 1957. À partir de ces modèles en grillage à poule, il y a Max Nelson qui va réaliser le premier film d'un retournement de la sphère. Et pour ça, il va le faire en images de synthèse, mais les images de synthèse, ça n'existait pas. Pour certains, ce film, c'est l'origine, l'acte fondateur des images de synthèse, tout simplement. On va se regarder ce film simplement pour l'émotion. Voilà. Premier retournement de la sphère visualisé. Alors c'est le modèle, c'est un retournement à modèle central, et le modèle central c'est la surface de Morin. Je vous dirai quand elle apparaît. Voilà, là on est arrivé à la surface de Morin, et tout ce qui va suivre sera image miroir de ce qu'on a vu précédemment. Et voilà. C'est émouvant. C'est vraiment émouvant. Mais il faut être totalement honnête. On n'y comprend rien. On n'y comprend rien. On voit pourquoi ? Ben parce qu'on n'arrive pas à voir par transparence ce qui se passe. On ne comprend pas les auto-intersections, etc. Ce n'est pas encore satisfaisant. On est au tout début des images de synthèse. Regardez ici, William Thurston va reprendre le problème du retournement de la sphère en 1994 et va fournir un retournement avec des images qui sont quand même plus soignées, dans lesquelles on comprend mieux les choses. Il va reconsidérer complètement le sujet et proposer le premier retournement de la sphère qui ne soit pas un modèle central. Donc il n'y a pas un modèle central dans ce truc-là. En revanche, vous avez un phénomène très important qu'il note corrugation, qu'il appelle corrugation, et ce sont ces grandes vagues qui apparaissent. Alors je vous propose un film du retournement de la sphère, donc de Thurston. Bon, je ne sais pas pourquoi il est saccadé et il finit pas, mais voilà. Vous avez tous compris, hein, ben, tranquille. Je vous le remets. Les images sont plus belles, mais on n'y comprend pas tellement plus, hein. Alors, je pourrais expliquer ce retournement parce que je l'ai pas mal travaillé, en fait, mais je ne le ferai pas parce que sur Internet, vous avez des versions plus longues de ce film. Téléchargement, enfin, je ne sais pas si c'est libre, enfin, on va dire que oui. Et ces films sont expliqués et vous allez comprendre étape par étape ce qui se passe. Donc, ils sont très didactiques. J'ai envie de passer à autre chose. Et autre chose, c'est quoi ? Ben, autre chose, c'est se dire, OK, ça fait deux retournements de la sphère qu'on voit, ils sont ultra compliqués, on n'y comprend rien. Est-ce que c'est parce qu'on est trop bête et qu'on est incapable d'imaginer un retournement simple ? Ou est-ce que c'est parce que les choses sont vraiment intrinsèquement compliquées et que pour retourner une sphère, ça va être compliqué ? Comment est-ce que je peux répondre à cette question ? Ben, voilà une tentative réalisée par Kössner, Francis et Sullivan. Ils se sont dit, bon, comment est-ce que la nature ferait pour retourner une sphère ? La nature, en général, elle économise ses moyens. Où est-ce que je trouve des sphères dans la nature ? Ben, par exemple, les bulles de savon. Qu'est-ce que c'est l'économie ? C'est l'énergie. Quelle est l'énergie de mes bulles de savon ? Ben, c'est l'énergie de tension de la surface. Imaginez qu'on soit capable de déformer des bulles de savon sans qu'elles éclatent. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour passer d'une bulle à son retourner en un minimum d'énergie ? Voilà la question que se posent ces trois mathématiciens. Alors voilà le dessin que j'ai en tête. Donc il faut imaginer la chose suivante, vous avez vos bulles de savon, elles peuvent être plus ou moins compliquées, et selon la complexité de la bulle, eh bien, vous allez avoir une tension superficielle de plus en plus grande, une énergie, alors il y a marqué un W là parce que mathématiquement on appelle ça l'énergie de Willmore, vous allez avoir une énergie plus ou moins grande. Vous voyez, celle-là elle est très torturée, et comme par hasard elle a une grande énergie. Et bien sûr, les sphères, celles qu'on observe tous les jours, ben c'est celles qui ont la plus petite énergie, comme d'habitude, la nature économise, n'est-ce pas ? Alors, il faut imaginer la situation un peu comme ceci. C'est comme si, je suis au minimum d'énergie, ça veut dire que chaque fois que je bouge un petit peu ma sphère, elle va prendre de l'énergie. Donc, c'est comme si elle était au fond d'une cuvette et que chaque fois que je bouge, je suis obligé de monter. D'accord ? Et alors, quel est le problème ? Ben, le problème, c'est qu'on a tout un paysage autour de notre bulle et qu'on veut passer à l'autre bulle, de l'autre cuvette qui est quelque part ailleurs. Et qu'est-ce qu'on aimerait ? Ben, si on veut le faire avec le minimum d'effort, il faut viser le col. Et puis, il faut descendre de l'autre côté. D'accord ? Sauf que ça, c'est une belle image comme ça qu'on a dans la tête, mais dans la vie du mathématicien, il n'y a pas une image comme ça. Il a ses bulles de savon qui sont toutes tordues. Comment trouver le col ? Ben, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui a été résolu par ces deux mathématiciens, Bryant et Kössner. Ces deux théorèmes différents qui, mis bout à bout, résolvent le problème. Dans le dessin précédent, devinez quoi ? La surface qui correspond au point d'interrogation, donc juste le passage au col, c'est la surface de Moore. Donc la surface qu'on a déjà rencontrée. Donc c'est celle-là qu'il faut viser. Vous voyez, j'aime beaucoup ce théorème, d'abord parce que c'est un théorème qui n'est pas évident du tout. Il vous dit comment il faut faire pour retourner une bulle avec le moins d'énergie possible. Et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'il réunit deux mathématiciens dont on imagine à d'infimes détails que leurs caractères sont un peu différents. Alors la surface de Morin, on l'a déjà rencontrée. C'est une sphère qu'on a torturée, dans laquelle il y a des auto-intersections. Donc là, cette sphère, il faut l'imaginer, elle est bleue à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Et on lui fait faire des intersections de telle façon à ce que j'ai quatre tentacules. Et vous voyez, elle a une symétrie d'ordre 4. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle est là, ma surface de Morin. Je vais monter ici, puis redescendre de l'autre côté. Paf! Avec le chemin le plus court. Bon, il se trouve que là, on sait faire mathématiquement. Quand j'arrive là, je fais un quart de tour et je redescends. Hein, ça, en gros, c'est l'idée. Alors maintenant, on peut écrire les équations et visualiser tout ça. Et c'est ce que je vous propose. Donc voici votre bulle de savon. Et voilà comment on va se déformer en minimisant l'énergie. Hop, la surface de Morin est là. Et maintenant, on repart de l'autre côté. Bon, là, on revient. Ah oui, il y a de la musique. Bon, pour ce film, on a loupé la musique, mais pour les prochains... Pour les prochains, je vous ai mis la musique à donf. Ok, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut se dire, ben, en fait, le retournement de la sphère, c'est pas si facile. Parce qu'on... Bon, c'est pas super compliqué non plus, mais si là, j'éteins l'ordinateur, on y va tous ensemble, moi compris. On essaye de faire les dessins pour le retournement, là, pourtant on l'a vu. On n'est pas couché, hein. Parce qu'on n'y arrivera pas. Donc ça semble dire que le retournement de la sphère, c'est quelque chose d'intrinsèquement relativement compliqué, disons. Bon, on est en 1998, est-ce que tout est enterré? Pas tout à fait. Récemment, en 2015, Arnaud Chérita, qui est de Toulouse, eh bien, va produire une nouvelle façon de retourner la sphère. Donc c'est tout récent. Cette façon, je l'aime beaucoup, parce que conceptuellement, elle est incroyablement simple. En un quart d'heure, en lisant sa démonstration, on est complètement convaincu. Un quart d'heure. Mais vous imaginez, comme c'est quand même un truc, retourner la sphère. Donc il a vraiment trouvé un argument qui permet de voir et de simplifier, qui est très très fort, que j'aime beaucoup. Et puis, il s'est lancé dans la visualisation avec Joss Leiss, qui a réalisé les images. Et je vous montre ce retournement en direct. Alors, le petit problème avec ce retournement, c'est que je trouve que autant l'idée est conceptuellement très simple, autant le retournement nécessite pas mal de gymnastique pour le comprendre. Voilà, là on a une situation enfin simple, c'est-à-dire une sphère avec un anneau équatorial, une boue équatoriale, et la fin est toute simple. Mais ce qui s'est passé avant, ouch. Hein, ouch, ouch, ouch. Alors Arnaud Chérita a une chaîne YouTube, et je crois qu'il va réaliser une version expliquée du retournement, étape par étape. Donc visez la chaîne YouTube. Enfin, moi je suis abonné, donc dès que ça va tomber, je vais regarder ça. Bien, c'était notre second défi à l'impossible. Passons maintenant à notre troisième défi à l'impossible, celui que va relever John Nash. Et pour ça, je vais vous parler des décorations de Noël, c'est quasiment de saison. Vous connaissez peut-être cette mode qui consiste à faire des décorations de la façon suivante. Vous prenez une boule de Noël et vous l'enchâssez dans une bulle de plexiglas. Clac. Vous connaissez ça ? Non ? Oh. Regardez, vous achetez des bulles de plexiglas, vous achetez des boules et vous les mettez dans les bulles comme ceci. Et vous réalisez comme ça vos décorations de Noël. Alors, si vous faites ça vraiment complètement au hasard, il y a quand même une probabilité pour que, une fois que vous avez fini les deux boîtes, bah, la dernière boule de Noël elle soit plus grande que la dernière bulle en plexiglas que vous avez. Ça, c'est tout à fait possible. Il ne vous reste plus qu'à revenir en arrière. Enfin, sauf si vous êtes, disons, à la fois sauvage et paresseux, Auquel cas, vous avez peut-être envie de prendre votre boule de Noël, là, puis vous allez l'écraser de toute force pour la faire rentrer dans la bulle en plexiglas. Bon, en général, je pense que quelqu'un dans votre entourage va vous décourager de faire ça, sauf si vous avez un matheux dans les parages. Si vous avez un mathématicien dans les parages, vous vous exposez à la question suivante. Peut-on déformer, en préservant les longueurs, une boule de Noël de façon à la faire rentrer dans une bulle plus petite ? Alors, on va comprendre ce que ça signifie, cette question. Vous voyez, cette fois, on s'autorise toujours à déformer les surfaces, mais attention, c'est Noël, c'est la boule de Noël, pas question de mettre dessus du bec, enfin le bec benzène, hein, on ne va pas la cramer, on ne va pas aller dessus avec l'azote liquide. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on veut déformer la boule de Noël, comme on déformerait une feuille de papier. Évidemment, je n'ai pas une feuille de papier là, mais vous savez bien que j'ai une feuille de papier comme ça, je peux la déformer tranquillement. Je n'ai pas besoin de mettre de l'azote liquide pour contracter le matériau ou de mettre un bec benzène pour dilater le matériau. Donc maintenant, les déformations qu'on veut regarder, c'est les déformations qui ne contractent ni ne dilatent les matériaux. D'accord ? D'une manière mathématique de le dire, plutôt que de parler de dilatation et de contraction, on va dire ben, les longueurs sur le matériau sont préservées. Quand vous dilatez, vous augmentez les longueurs, vous contractez, vous diminuez, ben là, voilà, on va préserver les longueurs sur le matériau. Ok ? Donc vous avez votre boule de Noël, vous n'avez pas le droit au bec benzène ni à l'azote liquide, vous avez juste le droit de déformer la boule de Noël. Est-ce que ça, c'est possible ? Alors, tel que j'ai écrit la question, là, ce n'est pas comme ça vraiment qu'on trouvera ça en mathématiques, hein, il n'y a pas marqué boule de Noël. On écrit plutôt comme ça. Peut-on réaliser un plongement isométrique ? Alors, iso, même, métrique, mesure, longueur, même mesure, plongement, bah, vous avez votre boule, vous imaginez que vous la plongez dans votre aquarium de la bulle de plexiglas. Donc, est-ce que je peux réaliser un plongement isométrique d'une sphère à l'intérieur d'une autre plus petite ? C'est ça qu'on se demande. Bon, bah, faisons un essai. Je vous propose de ne pas massacrer des boules de Noël, mais plutôt des balles de ping-pong, ça coûtera moins cher. En première approximation, on peut imaginer que la balle de ping-pong, le matériau de la balle de ping-pong, quand je le déforme, il ne va pas se contracter ni se dilater. D'accord ? Alors j'ai mes balles de ping-pong et je veux les faire rentrer de toute force dans quelque chose de plus petit, par exemple un dé à coudre. Alors vous prenez votre balle de ping-pong et vous y allez, comme une brute. Bon, si vous vous appelez moi, ça, rien ne va se passer, mais si vous êtes vraiment fort, il peut arriver ça. Scrooge. Ok ? Vous risquez de poquer votre balle. Poquer, oh, ben, ça veut dire ça. Ça veut dire que je fais apparaître en particulier des points singuliers, des points de pincement, des points sur lesquels je n'ai pas le droit de faire passer la main d'un enfant. On est d'accord. Et on n'obtient rien d'autre. Et il y a une bonne raison pour ça. C'est un théorème de maths. C'est un théorème qui raconte la rigidité qu'on observe sur les balles de ping-pong. Il n'est pas possible de placer une sphère dans une autre sphère, plus petite sans déformer les longueurs. Sauf à amoindrir sa régularité en créant des pocs, par exemple. Alors, il faut que je vous parle de régularité. Qu'est-ce que ça veut dire amoindrir sa régularité ? Ben, on avait un objet bien régulier et tout d'un coup, il y a des pocs. Donc, on a une petite idée de ce que ça veut dire, mais je vais être un tout petit peu plus précis. Bien. Alors, imaginez que vous deviez construire une piste de skateboard. Je vous donne une plaque de métal toute plate et puis un demi-cylindre. Et débrouillez-vous. Alors, vous pouvez mettre la plaque de métal et le demi-cylindre de cette façon-là, en formant un angle ici. Si vous formez un angle, votre skateboarder, quand il va dévaler la pente, une fois passé la ligne de jonction, il va décoller. On est tous d'accord. Si je veux quelque chose d'un petit peu plus régulier que ça, là encore une fois, je n'ai pas trop l'impression que c'est régulier, si je fais passer la main d'un enfant, etc., ben, je vais les mettre en continuité, mes deux objets. Alors là, j'imagine, si je peux mettre la main d'un enfant dessus, là, il n'y a pas de souci. Par contre, pour le skateboarder, c'est un peu plus délicat. Parce que quand il va passer cette ligne de jonction, là, alors que tout est bien en continuité, eh bien, il va ressentir un à-coup, il va décoller. Pourquoi est-ce qu'il va décoller ? Parce que votre plaque, elle est parfaitement plate, elle n'a pas de courbure. Votre cylindre, lui, il a une courbure importante. Donc, à la ligne de jonction, j'ai une rupture de courbure. J'avais une courbure zéro, puis tout d'un coup, j'ai une courbure importante. Ben, la rupture de courbure, votre corps, la physique le ressent. Et vous allez avoir un à-coup ici. Si je ne veux pas d'à-coups, comment je peux faire? Et bien là, il faut imaginer que vous ayez une force considérable. Vous êtes Hulk, par exemple. Vous prenez votre plaque de métal et vous la déformez comme ceci. Boing. Je suis en train de penser que c'est enregistré. J'arrête pas de faire zizi, boing, ploc. Catastrophe. Faudra pas l'écouter, cet enregistrement. Aïe, aïe, aïe. Bon, je sais plus. Ah oui, ce que je vous disais, c'est que donc, je déforme cette plaque de la façon de Hulk. Et ce que j'obtiens, c'est quelque chose qui a une courbure qui varie tout doucement. Et là, si je fais du skateboard dessus, tout se passe bien. On a trois régularités différentes de surface. Ici, je passe la main, je me coupe la main, je décolle avec mon skateboard. C'est la régularité la plus faible possible. Ici, je passe la main, je ne me découpe pas, mais j'arrive avec le skateboard, j'ai un à-coup. C'est une régularité intermédiaire. Et ici, tout se passe bien, aussi bien avec la main qu'avec le skateboard. C'est ma régularité maximum. Alors, on les note, c'est une régularité avec des degrés. Ici, on va dire que c'est la régularité de classe 0, le degré le plus bas. Ici, la régularité de classe 1, le degré intermédiaire. Et ici, la régularité de classe 2, le degré le plus élevé pour ce qui nous intéresse. D'accord ? Et ce que dit le théorème ? Il dit la chose suivante. Le théorème de tout à l'heure, si je dois l'écrire vraiment précisément, il dit que vous ne pouvez pas déformer une petite sphère, pour la rentrer dans une sphère plus petite, si vous gardez la régularité C2. Et donc, c'est pour ça que vous voyez apparaître des POC. Vous pouvez peut-être le faire, mais vous allez avoir des POC. Bon, tout semblait être dit, sauf que, en 54, Nash publie un résultat extraordinaire qui va être complété en 55 par Kuiper et qui dit la chose suivante. Attention, on a oublié un peu trop vite la régularité intermédiaire. Créer des POC, c'est casser la régularité jusqu'à son niveau le plus bas. Mais entre le niveau le plus bas et le niveau le plus élevé, j'avais un niveau intermédiaire. Ce niveau n'est pas interdit par le théorème. Eh bien, devinez quoi ? En fait, vous pouvez déformer une sphère de façon à avoir la régularité intermédiaire. Donc, un enfant peut passer sa main, pas de souci. Et la placer à l'intérieur d'une autre sphère plus petite. Incroyable. Tellement incroyable que personne n'y croit. Personne n'y croit, et même les plus grands. Vous avez ici Mikhaïl Gromov. Mikhaïl Gromov, c'est le plus grand géomètre contemporain, probablement l'un des plus grands mathématiciens contemporains, donc c'est vraiment pas n'importe qui. Voici sa réaction en lisant Nash. J'ai d'abord pensé que c'était une absurdité. C'était incroyable. Cela ne pouvait être vrai, et c'était vrai. Ah oui, pourquoi est-ce que les gens doutent ? Parce que la démonstration de Nash, elle est constructive, c'est vrai, mais c'est un peu comme pour Smail. Vous avez beau savoir qu'elle est constructive, elle ne vous aide pas à voir la solution. Vous ne la voyez pas, la solution. Donc elle vous dit, ça existe. Oui, mais c'est comment ? Débrouille-toi. Bon, débrouille-toi. Donc les gens n'y croient pas. Et puis quand même, là, on a affaire à Gromov. Qu'est-ce qu'il va faire ? J'ai réfléchi pendant plusieurs années pour essayer de comprendre le mécanisme caché derrière la démonstration de Nash. Et il va le comprendre. Il va le comprendre, il va le généraliser, et c'est ce qui s'appelle l'intégration convexe. Et il va comprendre qu'en fait, un même phénomène est au cœur de ce qu'on a vu de l'impossible pour la surface de Boyle, de l'impossible pour le retournement de la sphère de Smail, et de l'impossible pour le placement de la sphère, la sphère réduite de Nash. Tout d'un coup, des choses qui étaient complètement disconnectées se retrouvent reliées sous une même perspective. Et puis on a mieux que ça. Il prend de l'altitude. On commence à comprendre ce qui se passe. Pour vous donner une idée, une analogie, c'est comme si, avec Nash, on vous donne une recette pour construire une petite sphère dans une grande sphère. Mais c'est comme si on vous faisait une recette de cuisine, vous voyez. Au niveau moléculaire, on vous dit prenez des moles de NaCl, prenez des moles de H2O, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez voir ce que vous êtes en train de cuisiner ? Comment vous voulez faire une recette de cuisine avec ça ? Vous n'y arrivez pas. Avec Gromov, on est au niveau supérieur. Vous allez acheter un canard, Vous prenez votre huile d'olive, vous achetez des oranges. Hein, j'ai peut-être une petite idée qu'on est en train de faire un canard à l'orange. Ce n'est pas du tout la même chose. On voit vraiment les choses de beaucoup plus haut. Alors, on les voit de beaucoup plus haut. Ah oui, mais ça veut dire que la théorie est très abstraite. Elle est très abstraite, elle nous permet de voir haut. Et donc, on pensait que cette abstraction empêcherait ou ne donnait pas vraiment de clé pour visualiser les résultats de Nash. Mais c'était sans compter qu'elle est certes abstraite, mais constructive. Ça veut dire que si vous creusez la méthode mise au point par Gromov, vous pouvez la transformer en un algorithme que vous pouvez mettre sur un ordinateur, faire tourner cet algorithme et voir les fameuses sphères de Nash. Alors, c'est ce que nous avons fait entre 2013 et 2016. Donc, vous avez ici Francis Lazarus, qui est chargé de recherche au CNRS, qui est spécialiste en informatique. Vous avez Boris Thiber, qui est maître de conférence en mathématiques appliquées. Damien Romer, qui est maître de conférence, qui est spécialiste en synthèse d'images. Et puis Roland Denis, post-doctorant sur le projet. Vangelis Bartsos, étudiant à l'ENS en stage sur le projet. Et puis votre serviteur. Alors comment on va faire ça? On va commencer par une grosse triche. Vous prenez votre boule de Noël. On m'avait interdit l'azote liquide. Rien n'affiche, je l'utilise quand même. C'est enregistré pour la vie. Je serai mort que le document il sera encore sur Internet et on entend encore. Mais c'est pas possible. Il faut pas me faire ça à moi. Bon, donc vous avez votre sphère. Vous l'avez réduite à l'azote liquide. Donc voilà, elle est là, toute réduite à l'azote liquide. Donc tout votre matériau s'est contracté. Ça on le verra pas. Je me suis tout contracté. On le verra pas ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un matériau tout contracté, vous allez le détendre, vous allez le décontracter en quelque sorte, étape par étape, pour lui faire retrouver son état initial. C'est ça l'idée. Mais vous allez le détendre sans qu'il reprenne tout son volume initial, parce que là, vous aurez tout perdu. Alors, comment faire? Vous allez le détendre en faisant apparaître des petites oscillations comme ça. Donc là, vous le détendez dans une certaine direction, on est d'accord? On lui redonne, on le contracte moins, quoi, en quelque sorte. Vous voyez ces petites oscillations? Elles sont l'analogue de ce que faisait Thurston tout à l'heure pour retourner la sphère. Et on les appelle des corrugations, pareil. Et maintenant, vous avez fait ça une fois dans une direction, vous allez le faire dans une autre direction. Mais avec des amplitudes plus petites et avec des fréquences plus grandes. D'accord? Donc vous détendez le matériau dans une autre direction. Et vous continuez comme ça dans une troisième direction. Avec des amplitudes de plus en plus petites, des fréquences de plus en plus grandes, et ainsi de suite, jusqu'à retrouver l'état initial. Alors, ça va durer une infinité d'étapes, mais à la fin, à la limite, vous allez obtenir une sphère réduite, qui va avoir à peu près cette tête-là. Et si je la compare par rapport à la sphère de départ, il y a quand même un sacré facteur de réduction. Hein. Peut-être on n'est pas hyper convaincu parce que je suis allé un peu vite, et je vous propose des images avec des couleurs qui nous montrent l'état de contraction du matériau. Donc voilà, j'ai pris une petite portion de ma sphère, disons autour de l'équateur, j'ai pris une portion de ma sphère, et je l'ai très contractée, là, elle sort tout juste de l'azote liquide. Donc quand elle est très très contractée, elle est rouge, et quand elle va retrouver l'état initial, elle sera bleu très foncé, d'accord? Alors voilà, je commence à faire mes premières oscillations, mes premières corrugations. On est passé du rouge à l'orange, on est un petit peu en dessous là. Ça se voit presque pas sur la vidéo projection, mais il faut me croire un petit peu. Puis, on met une seconde vague d'oscillation, une seconde vague de corrugation, et là on est déjà dans le vert. Le matériau s'est déjà pas mal détendu. Puis je continue. Une troisième vague d'oscillation, je suis dans le cyan. Je continue, je suis dans le bleu encore plus profond, d'accord? Et ainsi de suite, je ne m'arrête jamais. On s'aperçoit que de la taille des phénomènes, hein, je suis obligé à chaque fois de zoomer sur des toutes petites régions pour voir ce qui se passe. Donc ça continue comme ça, de vitam aeternam, et à la limite, ça y est, j'ai retrouvé mon état initial sans avoir repris l'entièreté du volume que j'occupe au départ. Alors si je regarde cet objet, j'ai l'impression de voir comme une fractale. L'image qu'on a ici, c'est, vous imaginez, vous êtes à l'intérieur de la sphère, on vous a emprisonné à l'intérieur de la sphère, et vous regardez le plafond et vous prenez une photo. On a l'impression d'être dans une fractale, mais ça ne peut pas être une fractale. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Une fractale, comment est-ce que ça s'obtient ? Ben, prenez un segment, vous le brisez, et vous répétez l'opération sur chacun des segments. Une fractale, c'est un objet infiniment fracturé. Évidemment, en le fracturant infiniment, vous avez la régularité la plus basse possible. Là, ce n'est pas question de mettre ça dans les mains d'un enfant. Il va se faire mal. Bien sûr, ça existe. Là, je vous ai fait ça sur une seule droite, mais je peux faire ça sur un objet comme une surface. Donc cette surface, ça s'appelle un Mandelbulb. Et vous voyez que, au fur et à mesure que je fais des zooms, je vois plus ou moins toujours la même chose. Il y a une autosimilarité. D'accord ? Assez vertigineuse d'ailleurs, au passage. Alors il faut bien se rendre compte que les fractales, elles ont été inventées après les résultats de Nash et de Cooper. Bien après. Nash et Cooper, c'est 54. L'inventeur des fractales, le voilà, Benoît Mandelbrot. Et la première fois que le mot fractal est inventé, c'est dans ce livre qui paraît en 1973. Donc on est plus tard. Alors Benoît Mandelbrot a passé une grande partie de son existence à étudier les fractales. Il y a une fractale qui porte son nom, l'ensemble de Mandelbrot. Je ne peux pas, impossible, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un petit film sur Mandelbrot, sur l'ensemble de Mandelbrot, mais rien du tout. C'est juste presque un hommage. Et on va voir ce caractère d'autosimilarité qui va se manifester. Bon, il faut que je vous confie un secret. Le film dure 21 minutes. C'est fait pour se détendre, se relaxer. C'est pour ça que vous avez cette musique. Je vais l'arrêter là. Vous pouvez trouver ce genre de film sur Internet très facilement. Vous marquez Zoom, Mandelbrot, et vous en avez tout plein qui viennent. Donc au bilan, une fractale, bah, c'est un objet infiniment fracturé, ok ? La régularité la plus basse qui soit, c'est la régularité C0, et elle présente des autosimilarités. Alors vous voyez que ça ne peut pas être une fractale ce qu'on a, parce que nous, on a une régularité intermédiaire. Hein, on peut passer la main, c'est tout lisse. Alors, bah, ce n'est pas une fractale. Pourquoi ? Vous voyez ici une fractale usuelle, et puis ici ce qu'on a dans une sphère réduite. Dans une fractale usuelle, votre autosimilarité est parfaite. Et du coup, l'objet final a une régularité qui est la plus basse qui soit, il n'est pas lisse. Et dans ce qu'on observe pour la sphère réduite, eh bien on a une fractale, quelque chose qui ressemble à une fractale, mais sauf que l'autosimilarité se dégrade au fur et à mesure des agrandissements. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je vais remonter. Regardez là. Regardez comme les oscillations, elles sont molles du genou. Hein, c'est vraiment des oscillations apathiques. On est là, c'est à peine si la surface, elle arrive à osciller. Alors qu'au départ, on avait des oscillations bien vigoureuses. Hein, regardez-moi ça, ça c'est de l'oscillation, ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des agrandissements, les oscillations sont de plus en plus faibles. L'amplitude relative des oscillations va diminuant. Et c'est le fait que cette amplitude aille diminuant qui va faire que l'objet final, à la fin, est lisse. Alors on a quelque chose qui ressemble à une fractale et qui est lisse. On a appelé ça une fractale lisse. Je vous propose de voir la boule de Noël réduite, là, comme une planète sur laquelle on envoie une sonde et on va asphérir. On y va. Donc on arrive par le pôle Nord, comme ça, paf. Et on ne va pas vraiment se poser, disons qu'on envoie un drone. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du pôle Nord et on va aller rejoindre le pôle Sud en traversant l'équateur. L'idée, c'est que si vous avez observer l'objet au pôle Nord et au pôle Sud, les calottes polaires, elles ressemblent beaucoup aux calottes polaires qu'il y a sur une vraie sphère. C'est bien lisse. Alors que vers l'équateur, ça va être très boursouflé, très oscillant. Donc ici, je suis au pôle Nord et je vais vers l'équateur, vers là. Et ce que je constate, c'est qu'au fur et à mesure que je me déplace vers l'équateur, mon sol se soulève. Il est traversé d'oscillations d'amplitude plus importante et de fréquence moins grande. Et puis encore d'autres oscillations d'amplitude encore plus importante et de fréquence encore moins grande. Et ainsi de suite. Vous voyez là, on voit encore d'autres oscillations qui viennent comme ceci. Donc au fur et à mesure que je vais vers l'équateur, mon sol se soulève en quelque sorte de façon de plus en plus importante. Ici, je suis à peu près à l'équateur. Voilà. Et puis, je vais rejoindre le pôle sud. Et je vais voir mes oscillations de plus grande amplitude disparaître et une cascade comme ça d'oscillations d'amplitude de plus en plus petites qui vont disparaître. Vous voyez, là, je suis près du pôle sud et mes oscillations sont toutes petites. Et là, je redécolle pour me remettre en orbite. J'aime beaucoup cette image-là. Ici, c'est tout lisse et puis on voit l'apparition des corrugations. Et voilà, je décolle pour me retrouver en orbite. Bien, eh bien, il ne nous reste plus qu'à saluer nos trois héros. D'abord Werner Boyle, avec la surface de Boyle. Alors, je n'ai pas de photo de Werner Boyle, mais par contre, il y a quelque chose de remarquable sur Wuppertal, c'est qu'en 1901, donc la date à laquelle il publie la surface de Boyle, Wuppertal, donc la ville dans laquelle est né Werner Boyle, dans laquelle il a probablement enseigné, eh bien, a vu la construction du premier tramway suspendu d'Europe. Donc j'espère qu'il a testé ce tramway. Ici, vous avez ce mail avec la surface de Morin qui joue un rôle si important dans le retournement de la sphère. Ici, vous avez Nash avec une sphère réduite. Et vous voyez là, j'ai plaqué la map monde en fait dessus. Parce que vous avez bien sûr compris que, avec ces histoires de sphères réduites, vous pouvez imaginer avoir chez vous une map monde sur votre table, qui est une sphère réduite de la sphère terrestre, qui a préservé toutes les longueurs. Ça veut dire que sur votre table, si vous mettez un bout de ficelle qui fait l'équateur, vous avez besoin de 40 000 km de ficelle. Voilà. Le mot de la fin, ce sera pour Charles-Alexandre de Calonne, qui était ministre de Louis XVI. Si c'est possible, c'est fait. Si c'est impossible, cela se fera. Merci de m'avoir écouté. Ouais.
Sur la dernière, ça marche, ça, c'est bon.
Oui, marche.
Sur la dernière sphère, on peut faire une sphère aussi petite qu'on veut, ou pas ?
Oui, on peut mettre une sphère de la taille du Soleil à l'intérieur d'un petit pois. sans déformer les longueurs. C'est pour ça que Gromov disait « c'est une absurdité » et pourtant c'est vrai. Tout est caché dans le passage à l'infini, en fait. Tout est caché dans le passage à l'infini. Bon, je vous sens dubitatif, on l'est un peu tous.
Est-ce que ça a déjà été construit un peu physiquement, comme le tore que j'avais vu, cette espèce de tore plat qu'on avait c'était dans ton...
Oui, bonne question, comme quoi ça vaut le coup de payer les gens dans le public pour qu'ils posent les bonnes questions. Tu viendras chercher ton chèque tout à l'heure. Ok, ta question, ça me fait penser à deux choses. Oui, on a réalisé un modèle en impression 3D de ces sphères réduites, mais évidemment, c'est des modèles qui sont des approximations d'un objet infini, bien entendu. Ce modèle, je pense qu'il est à la fin de mon diaporama, et entre la fin de mon diaporama ici, il y a la bibliographie que j'ai oublié de vous donner, que je vais vous donner. Donc, deux bonnes raisons de poser cette question. Donc, je passe à la biblio. Si vous êtes intéressé par ce qu'on a vu, notamment pour le retournement de la sphère, vous avez ce document qui n'est pas hyper facile à voir, mais bon, qui est vraiment très très clair, qui explique comment s'effectue le retournement de la sphère de Thurston. Vous avez un site internet, The Optiverse, qui illustre le retournement de la sphère, vous vous rappelez, comme une bulle de savon. Il est super bien fait, ce site, donc vraiment, je vous recommande d'aller sur Optiverse. Et il y a une petite histoire du retournement de la sphère, en plus. Donc vous allez relire l'histoire du retournement de la sphère sur ce site. J'adore ce bouquin. Donc là, c'est Topological Picture Book, c'est fait par Francis, donc encore un de ceux qui était dans l'équipe qui a retourné la bulle de savon, en quelque sorte. Et alors, le problème, c'est que je suis enregistré. Comment est-ce que je vais dire ça de manière politiquement correcte ? Je dirais que le livre est exceptionnel pour les dessins. Parfois, il est un peu délicat à comprendre les explications qui entourent les dessins. Mais pour les dessins, ce bouquin est juste exceptionnel. Je l'adore. C'est truffé de ce genre de dessins. On a vraiment l'impression qu'un univers s'ouvre devant nous parce qu'on arrive à voir des objets qu'on ne concevait même pas. C'est fantastique. Donc un ouvrage qui est un ouvrage, une biographie de Nash par Sylvia Nazar. Ça s'appelle Un cerveau d'exception. C'est l'esprit américain super bien. Enfin, c'est un travail universitaire super bien fait. On découvre toute la vie de Nash, c'est une vie absolument exceptionnelle, hors du commun. J'ai pas eu le temps d'en parler. Est-ce que je le fais ? Je ne sais pas. En trois mots, donc c'est quelqu'un qui a des capacités intellectuelles exceptionnelles, un caractère de cochon, et qui va malheureusement subir une schizophrénie vers l'âge de 30 ans, qui va l'envoyer d'hôpital en hôpital. Il va vraiment perdre la raison. Et il a recouvré dans les années 90, ce qui va lui permettre d'aller recevoir le prix Nobel d'économie, parce qu'il va recevoir le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la théorie des jeux. Et puis plus tard, l'année dernière, il a reçu le prix Abel de mathématiques pour en particulier ses travaux sur les plongements isométriques, mais pas que. Et puis, destin tragique jusqu'au bout, il rentre d'Oslo, il arrive à New York, il prend le taxi pour aller à Princeton, et le taxi a un accident, et il décède dans cet accident avec sa femme. Donc Nash nous a quittés l'année dernière. Il y a un film qui raconte la vie de Nash. Il y a beaucoup de mathématiciens qui l'aiment pas trop. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, bien sûr, le film a été fait du vivant de Nash. Il n'aborde pas tous les aspects de la personnalité de la vie de Nash. Il y a certains aspects qui sont plus développés que d'autres. Ça reste un film, je dirais, hollywoodien, avec ses qualités et ses défauts, mais déjà, sa qualité numéro un, c'est que c'est un film sur un mathématicien, il n'y en a pas tous les jours. Et il n'est pas si mal au global. Enfin, bref. Je pense que la bonne combinaison, c'est de regarder le film et de lire le livre. Et comme ça, on voit un petit peu les compromis qui ont été faits dans le film, et puis on juge si c'est trop pour soi ou si c'est acceptable. Moi, j'ai jugé que c'était acceptable. Ah, après, si vous voulez savoir un peu plus sur les fractalis, vous avez... vous piochez là-dedans. Par exemple, le dernier dossier de Pour la science, là, de cet été, quand les maths prennent forme, vous allez avoir des fractales. Vous voyez le Mandelbulb qu'on a vu tout à l'heure, il est là. Et puis vous verrez, ça va vous parler de fractales lisses aussi. Ah, je peux vous recommander une excellente conférence. Conférencier vraiment exceptionnel. Vous l'écoutez, celui-là. Notez son nom. Il est marqué là. Ah non, on ne voit pas. Bon, c'est moi, en fait. Donc c'est une conférence que j'ai donnée l'année dernière à la bibliothèque, à la BNF, et qui raconte, vous voyez la théorie de Gromov, de Mikhail Gromov, je vous ai dit, c'est une machine qui va unifier les résultats qu'on a vus précédemment. C'est une machine en fait qui va expliquer les impossibles. Vous voyez le titre de la conférence, La machine à démanteler les impossibles, de Mikhail Gromov. C'est vraiment une conférence tout public. Vous pouvez la regarder tranquillement, vous n'allez pas prendre 10 pages de théorie, ce n'est pas vrai du tout. Vous allez voir beaucoup de dessins. Voilà, et vous allez, j'espère, avoir une petite idée de la façon dont tous ces miracles se résolvent. Et voilà pourquoi j'ai pensé à tout ça, parce que ici, vous voyez une réalisation en impression 3D d'une sphère réduite. Voilà. Donc pour l'instant, elle n'est pas exposée parce que... Bon, bref, pour diverses raisons techniques, mais elle va... Ah si, elle est exposée. Ok, j'ai encore dit une bêtise et elle est gravée là-dedans. Enfin, c'est une catastrophe. Bon, voilà, une autre question.
Moi, j'en ai une. J'ai beaucoup de mal à concevoir que Smale ait pu démontrer un théorème et de façon constructive, vous l'avez dit, sans avoir une image mentale de ce dont il parlait. Comment on peut expliquer ça?
Alors, moi, j'aime bien l'analogie du voleur. On peut démontrer des choses sans savoir vraiment les construire. Encore une fois, c'est parce que la construction qui est faite à un niveau qui est trop petit pour pouvoir vous servir globalement. C'est comme si je décrivais la construction d'une chaise atome par atome. J'exagère à peine. Donc oui, vous avez un procédé qui vous dit « Ok, en agençant des atomes, je vais arriver à faire quelque chose de plat. Ok, en agençant des atomes, je vais arriver à faire des bâtons de chaise. Ok, en mettant des écrous, je vais arriver à visser des choses entre elles. Et puis avec ces trois ingrédients, je vais arriver à faire quelque chose sur lequel je vais pouvoir m'asseoir. » Mais... c'est pas aussi précis que, ok, prenez le plan d'une chaise et coupez tel morceau dans du bois, faites dans un moule telle chose et telle chose avec du métal, et puis faites les rivets, etc. Enfin bref, il y a des niveaux de description très différents, et quand le niveau de description est trop élémentaire, trop précis en quelque sorte, et bien on n'y arrive plus, on n'arrive plus à construire ensuite. Mais quelqu'un qui serait infiniment patient prendrait la démonstration de Smale, la suivrait pas à pas, pourrait faire le retournement de la sphère. Mmh. Voilà. Personne ne l'a fait parce que c'est totalement désespérant. Personne n'a envie de travailler au niveau atomique.
Vous avez parlé de trois défis à l'impossible. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Des défis à l'impossible?
Ouais. Comme ça.
Déjà, nous-mêmes, on est des défis à l'impossible. Pourquoi on est là? C'est pas un défi à l'impossible, ça. C'est même pas le plus grand défi à l'impossible qui existe. Donc oui, bah, des défis à l'impossible en mathématiques, il y en a un paquet. C'est-à-dire des résultats qu'on n'arrive pas à croire. Par exemple, il y a un résultat dit de Banach-Tarski qui dit la chose suivante. Vous prenez une sphère pleine, une sphère pleine. Vous pouvez la découper en un nombre fini de morceaux. Je crois même que le nombre fini, c'est 7. Mais enfin, c'est peut-être pas 7, mais c'est inférieur à 10. Avec ces morceaux, disons les 4 premiers, vous construisez, non, ça, enfin, bref, vous construisez une sphère pleine de même rayon. Avec les 3 autres, une deuxième sphère pleine de même rayon. Donc j'étais parti avec une sphère pleine, je la découpe en un nombre fini de morceaux, je les réagence autrement, j'ai 2 sphères pleines. Alors là, je sais déjà si c'est la première fois que vous avez ce résultat. Bon, mais je ne suis pas trop naïf, il y a quelques mathématiciens dans cette salle, mais pour ceux qui n'ont jamais vu ce résultat, on peut penser tout de suite, je vais m'acheter une sphère, une boule d'or. Tout de suite, je fais ça ce soir. Et j'achète un bouquin de maths aussi, où je vais sur Wikipédia Banach-Tarski, et demain matin, je suis très très riche. Alors oui, ce résultat est un défi à l'impossible. Comment est-ce que c'est possible qu'avec 1 kilo d'or, j'en fais 2 kilos, et bien sûr, avec ces 2 kilos, je vais en faire 4, et par récurrence, et je ne sais pas si j'ai besoin d'aller faire mon enseignement demain matin. Voilà un défi à l'impossible. Et comme tous les défis à l'impossible, puisqu'ils sont démontrés, il y a un mécanisme derrière qui va me dire pourquoi ça marche, pourquoi je peux être absolument convaincu que ça marche, et pourquoi est-ce que, malheureusement, je ne vais pas pouvoir l'appliquer dans la vie pratique pour avoir de l'or comme ça, ad vitam aeternam. Évidemment, ça fait appel à des procédés infinis, donc du coup, je vais être bloqué au niveau physique pour ça. Mais surtout, ce que dit cet impossible, il dit qu'on a beaucoup de mal à mesurer les volumes des objets. Parce que qu'est-ce qu'on a dans notre tête? On se dit, ok, j'ai un volume ici et j'en ai fait 2. C'est la multiplication des petits pains. Hein, donc je suis parti d'un volume, j'en ai 2. Comment c'est possible? Eh bien, c'est possible parce qu'on a une mauvaise idée du volume. Et notre mauvaise idée du volume, c'est déjà de se dire dans sa tête, le volume est quelque chose d'évident et tous les objets que je peux imaginer mathématiquement, je peux en construire leur volume, je peux calculer le volume. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Les objets que... Les deux choses sont fausses. D'abord, de penser que le volume est quelque chose d'évident, c'est absolument pas quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose sur lequel même on peut... Si on se dit quelles sont les propriétés que devrait satisfaire un volume, c'est déjà pas évident comme question. Et ensuite, une fois qu'on a répondu à cette question... Le fait que tous les objets que je puisse imaginer mathématiquement, que tous ces objets aient un volume, n'est pas une évidence et en fait, en général, faux. Voilà. Et d'où le fait qu'on arrive à ce genre de paradoxe. Donc oui, des impossibles en mathématiques et un peu partout. Pas qu'en mathématiques, en sciences. Dans la vie, on n'a que de ça, quoi.
Qui est juste là-haut, qu'il était question quand même de la quadrature du cercle.
Ouais.
Donc, il semble possible. Alors apparemment, vous avez proposé le début d'une solution, parce qu'il paraît que ça continue un petit peu à l'infini, pour en savoir plus.
Alors,
est-ce que c'est un défi à l'impossible?
Vraiment, hein, vous êtes incorrigible à Poitiers. Hein, c'est... Bon, ok. Je vais vous montrer des petites choses. Alors, on va partir donc de cette question. Si je la retrouve. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, voilà, je pensais la retrouver, mais je ne l'ai pas retrouvée. Honte à moi. Où est-ce que j'ai fait ça? Non, je suis désolé, je pensais l'avoir ici. Je l'ai pas... Ah si, je l'ai peut-être ici. Voilà, donc peut-être que la question que vous avez en tête, c'est celle-là. Ah, Schtroumpf, j'ai fait une erreur de manipulation. Ah, j'ai dit Schtroumpf et pas un gros mot, c'est déjà une bonne chose pour moi. Il n'y aura pas un gros mot sur le... Voilà, très bien. Donc, la question posée, c'est la suivante. Ça, c'est un, dans le même genre de celle que je viens de proposer avec la boule que l'on découpe en plusieurs morceaux pour former deux boules différentes. Ici, vous prenez un disque et vous vous posez la question de savoir est-ce que je peux le découper en un certain nombre de pièces, réarranger ces pièces pour fabriquer un carré forcément de même air. Forcément de même air. Bon, cette question, elle a été posée, vous voyez, il y a un petit moment, hein, et elle a eu une réponse que relativement tardivement. Donc la réponse, c'est que, d'abord, c'est pas parce qu'ici on a un disque d'un côté et un carré de l'autre que c'est forcément non la réponse. Parce qu'on peut se dire, oh ben, oui, ici le bord c'est une courbe, ici le bord c'est quatre segments, j'ai aucune chance que ça marche. Ben non, parce que regardez, bon, c'est des choses qu'on voit, je pense à l'exposition, je ne me souviens plus exactement, mais par exemple ça, le bord c'est formé de courbes, ici c'est formé de segments, et c'est très facile de placer l'un dans l'autre. D'accord ? Donc c'est certainement pas parce que le bord est formé de courbes que la réponse est non. Certainement pas. Donc voilà la croix grecque, par exemple. Ici, j'ai que des courbes, et puis ici, je rentre tout dans un carré. Donc la question, c'est est-ce que je peux faire la même chose avec le disque ? Ben, c'est une question qui n'est pas facile du tout. Je ne me rappelle plus ce que je raconte ici. Bon, je ne vais pas refaire ça. Mais donc, la réponse est la suivante. C'est qu'en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible avec des pièces raisonnables. Pièces raisonnables, ça veut dire des pièces comme vous les imaginez ici. OK. En revanche, avec des pièces que j'ai envie de nommer déraisonnables, mais ça ne veut un peu rien dire. Ça veut juste dire que vous autorisez des pièces au comportement beaucoup plus tarabiscoté. Peut-être que j'en propose plus loin. Laissez-moi voir ça. Hop, hop, hop. Bon, là, je fais des tas de trucs. Non. Voilà, par exemple, des pièces compliquées comme ça. Vous voyez, ça, c'est une pièce compliquée. Hein ? Ça aussi, c'est une pièce compliquée. Ça aussi, c'est des pièces compliquées. Donc, vous voyez, votre disque, il est là, et votre pièce, elle fait ça. Voilà encore des pièces compliquées. Eh ben, est-ce qu'avec ces pièces compliquées, je peux y arriver ? La réponse est oui, et j'espère que je l'ai mise quelque part ici. Bon, j'ai l'impression que non. Ah oui, voilà. Donc, quadrature du disque, la question donc, posée par Tarski, reposée par Tarski, est-ce qu'il est possible de décomposer le disque en un carré en s'autorisant des pièces aussi compliquées que l'on souhaite ? Donc vous voyez ici une pièce compliquée sur le disque, ici une pièce compliquée sur le carré. Est-ce qu'on peut le faire avec des pièces très compliquées ? Donc on ne peut pas le faire avec des pièces usuelles, pour un puzzle usuel, mais des pièces comme ça, on est bien d'accord que ce n'est pas des pièces usuelles. On est bien d'accord, hein, c'est des pièces compliquées. Est-ce qu'avec des pièces compliquées, on est capable de passer d'un carré à un disque ? Et la réponse, donc vous voyez ici, je vous montre quelques pièces compliquées pour bien comprendre la différence entre une pièce simple et une pièce compliquée, disons. Et la réponse, elle est due à Laskovitch, et elle date de 1990. Le disque se décompose en un carré. Donc oui, la réponse est oui, c'est possible. De plus, on peut effectuer le découpage de telle façon à ce que lors du réassemblage, on ne procède qu'à des translations. Donc vous avez vos pièces d'un côté, vous faites que des translations. Et hop, vous tombez sur un disque. Alors, on a envie de les voir, ces pièces, on a envie de regarder ça. Ben, voilà un défi à l'impossible. Visualiser la décomposition en carré de Laskovitch. Alors, celle de Laskovitch, ça va être dur parce que il y a 10 puissance 50 pièces. Mais vous savez, dans la sphère que l'on vient de voir, il y a une infinité d'oscillations. Une infinité, on n'en est pas à 10 puissance 50. Une infinité, on l'a vu. Bon, en tout cas, on a une bonne idée de ce que ça peut être. Donc ici, c'est-à-dire plus que de molécules d'eau contenues dans les océans du globe. Je dois vous avouer que je n'ai pas fait le calcul. J'ai pompé ça quelque part, donc peut-être c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est beaucoup. Les pièces sont d'une effroyable complexité. Personne ne les a jamais représentées. Voilà, voilà un nouvel impossible à résoudre. Oui.
Dans sa démonstration, là, moi j'avais lu, c'est ce qu'on a mis, donc on peut avoir mis des bêtises, on dit que sa démonstration, elle n'est pas constructive. Elle n'est pas constructive ou elle est... Parce que là, c'est un problème, là, ce problème de savoir c'est...
Alors,
ce que veut dire à la limite constructif.
Je vais répondre à cette question.
Parce que formulé comme ça, ça semble ouais, plus constructif.
En fait, ce résultat est paru quand j'étais... un poil plus jeune, donc je ne dirai pas la date sur le micro, comme ça personne ne pourra calculer mon âge. Mais j'étais au début de ma thèse en mathématiques, j'étais tout fou. Et quand ce résultat est paru, je sautais de joie. À ce moment-là, j'étais aux États-Unis, au MSRI. Ils ont une super bibliothèque. Et je me suis dit, dès que j'ai 10 minutes, je fonce et je vais aller lire l'article de Laskovitch. Et ouais, j'ai foncé. Et ouais, je suis allé lire l'article de Laskovitch. Et ouais, j'ai rien compris. Mais vraiment, rien de rien. J'en ai vraiment rien compris. C'était un peu une douche froide. Je me suis dit, mais combien d'années de maths il faut pour comprendre un article ? Un article comme ça qui m'intéressait. Et en fait, ça m'a tellement douché que j'ai jamais réosé le revoir, cet article. C'est bizarre, hein ? Même maintenant, je n'ai pas envie de le revoir. Je ne sais pas si je vais avoir la même impression, c'est-à-dire de rien comprendre, au contraire de comprendre, de me dire, mais j'étais vraiment bête quand j'étais un tout petit peu plus jeune. Donc voilà, je ne sais pas répondre à cette question.
D'autres défis à l'impossible, on les a avec les œuvres d'Escher, si puisqu'on a vu une reproduction tout à fait au début du diaporama.
Ah oui, alors les œuvres d'Escher, donc j'aime beaucoup cet artiste. Donc au début du diaporama, bon, j'ai fait figurer une œuvre que j'aime beaucoup, parce que c'est déjà un défi à l'impossible en quelque sorte. On voit un poisson dans le sol avec des arbres renversés et des feuilles au-dessus. Et je trouve que cette œuvre, elle nous dit beaucoup de choses, très simplement. Elle nous dit, ben voilà, on croit que les choses sont impossibles, et puis si on inverse notre perspective, elles deviennent triviales. Parce que, bien sûr, c'est juste de l'eau avec des reflets, etc. Mais il faut penser que c'est de l'eau, il faut penser qu'il y a un reflet. Bon, il faut changer notre perspective, c'est tout. Et c'est le plus dur. C'est ce qui nous fait penser des choses comme étant impossibles, alors qu'en fait, elles le sont, c'est qu'on n'a pas changer notre perspective vis-à-vis du problème. Donc Escher est connu pour ses dessins mathématiques. Il y en a en particulier beaucoup sur ce qu'on appelle les pavages du plan hyperbolique. Je n'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Il y en a d'autres qui représentent des impossibles en mathématiques. En particulier... Je peux vous montrer celle-ci. Alors, ici, vous me faites sortir tous mes cartons, hein, ça. Ça, je vois ça. Voilà une œuvre d'Escher que j'aime bien. Vous voyez. La perplexité d'un homme face à un objet impossible. Un cuboïde. J'ai souvent été comme ça en maths. Je vous garantis. Il y a un autre artiste qui a pris en quelque sorte la continuation d'Escher. Peut-être que je peux vous le faire découvrir. Et c'est vraiment un artiste intéressant. Alors lui, je l'ai mis où ?
Oui, donc je vais aller. Artiste Eric Johnson.
Est-ce que vous connaissez Eric Johnson ?
Qu'est-ce que je fais plein écran ?
Donc c'est un artiste qui joue beaucoup avec la géométrie. Bon, là, c'est une collection de ses œuvres, donc c'est un peu en désordre, désolé. Je vais essayer d'atterrir sur les choses les plus géométriques. Je vais un peu vite, mais voilà, donc ici, là, c'est pas encore super. Voilà, là déjà, on commence à avoir un travail sur la géométrie qui est intéressant. Avec un changement de perspective, les fleurs qui sont derrière, les fleurs qui sont dessus, c'est vraiment assez joli. Ok. Bon. Voilà. Donc des travaux sur la. Peut-être là pour le coup, on pourrait vraiment baisser la lumière un peu plus, si c'est possible. Bon. Parce que. Bon, c'est pas grave. Donc ici, on a des intersections donc assez surprenantes. Ici, des géométries. Voilà, regardez la façon de jouer avec la perspective. Pardon ? Non, c'est des dessins. C'est vraiment des dessins. Non, c'est l'appareil. C'est pas une photo de ça, quoi. C'est un dessin. Regardez celui-ci. Ah, j'adore celui-là. Je trouve magnifique. Vous voyez, c'est une illustration en fait de la façon dont on décrit topologiquement certains objets. Ah, c'est bien. Oui. Et vous voyez, il y a des objets qu'on appelle les tores. Vous sortez par une face, vous rentrez par l'autre. Et donc là, ça, c'est l'évocation d'un tore. Et en fait, ça va même encore plus loin, mais bon. Bon, là, c'est autre chose. Oui, désolé, j'ai... Bon, tout ça, voilà. Bon, on a fait le tour. Mais donc, c'est un artiste vraiment qui a un volet géométrique très intéressant. Je le vois vraiment comme une sorte de continuateur d'Escher. Ouais. Non, c'est sûr qu'il est influencé. Hein. Eric Johansson. Johansson. Johan, et puis Son, je crois, avec deux S. Johansson. Là. Bon ben.
Merci. S'il n'y a plus d'autres questions, merci beaucoup à M. Borelli pour cet exposé dynamique, acoustique, visuel. Enfin, tout y était. Donc, merci encore. Et puis, bonne fin de soirée à tous et à bientôt, j'espère. Au revoir.